Plus de 2 parents sur 3 sont contre la vaccination anti-Covid pour leurs enfants de 5 à 11 ans. C'est en tout cas ce que dit un sondage Elab publié hier. Alors que la 5e et la 6e vague de coronavirus risquent de s'additionner, alors que plus de 3000 classes en France sont fermées, 2 parents sur 3. On est loin de la faible proportion de vrais réfractaires au vaccin et ça dit beaucoup sur ce sujet délicat que représente la piqûre avec un produit tout récent pour notre progéniture. Pourtant, la vaccination est souhaitable pour tous les plus de 5 ans, dit le président de la République. Le comité d'éthique vient de dire oui aujourd'hui à l'injection pour les 5-11 ans. On attend dans les jours qui viennent l'avis de la Haute Autorité de Santé. Bonjour Christelle Gras-Le-Gouen.
Bonjour.
Vous êtes chef des urgences pédiatriques au CHU de Nantes, présidente de la Société française de pédiatrie, épidémiologiste. J'invite les auditeurs à poser leurs questions. 01 45 24 7000. Christelle Gras-Le-Gouen, la vaccination des 5 à 11 ans, le comité d'éthique se prononce pour aujourd'hui et vous ?
Alors c'est une décision qu'on attendait et qui est sans surprise dans la mesure où elle est basée sur ce qu'on appelle la gestion de l'incertitude. Et dans ce contexte où il nous manque encore beaucoup de paramètres, mais les quelques informations dont on dispose sont jugées recevables, eh bien le comité d'éthique s'est prononcé favorable à cette vaccination.
Mais vous, en tant que pédiatre.
Ce qui nous paraît très important, c'est que on puisse informer les parents, les enfants, de manière éclairée, de manière transparente, dépassionnée aussi, et que cette vaccination puisse leur être proposée s'ils le souhaitent, sans aucune obligation ni discrimination à la clé.
C'est ce que dit le comité éthique. Hein. Eux, ils refusent qu'il y ait un pass sanitaire qui soit associé à cette vaccination.
C'est en ce sens que leur avis me semble tout à fait raisonnable, de manière à pouvoir s'adapter au fur et à mesure que les informations seront disponibles, que la pandémie évolue et qu'on puisse s'adapter aussi à chaque situation, chaque famille et chaque enfant.
En tout cas, il est légitime, d'après vous, de rendre la vaccination possible pour tous les enfants et pas seulement les plus fragiles, comme c'est le cas depuis cette semaine ?
Alors c'est quelque chose qui paraît tout à fait raisonnable, que les gens qui le souhaitent puissent le faire. C'est quelque chose pour lequel, dès qu'on aura les données de pharmacovigilance et qu'on sera assuré de l'absence de réactions inquiétantes à cette vaccination, eh bien c'est quelque chose qui paraît tout à fait légitime, que les parents qui le souhaitent puissent le faire.
Vous parlez des données de pharmacovigilance, on pense notamment à cette étude qui doit être faite aux États-Unis où la vaccination est déjà en cours pour les enfants, c'est ça, cette étude qui doit apparaître dans 4 jours.
En effet, on avait, lors de la vaccination des adolescents, constaté que, après quelques millions de doses délivrées, certains adolescents, des garçons en particulier, faisaient une complication qui concerne le cœur et ses enveloppes, des myocardites, des péricardites. Et donc, ce qui est important, c'est de vérifier, là aussi, après quelques milliers de doses, que cette complication n'existe pas, ou en tout cas pas en nombre plus important, dans cette tranche d'âge. Et donc, c'est l'information qui nous manque pour pouvoir valider le fait que cette vaccination peut être délivrée à tous les enfants entre 5 et 11 ans dont les parents le souhaiteraient.
Vous dirigez les urgences pédiatriques à Nantes. Est-ce qu'il y a beaucoup de cas de Covid chez les enfants qui arrivent aux urgences à ce jour ?
Alors, il n'y a pas de cas de Covid où c'est tout à fait anecdotique, ou alors ce sont des découvertes qui sont fortuites, hein, puisqu'on fait des tests systématiques pour tous les enfants qu'on hospitalise. Aujourd'hui, l'immense majorité des enfants qui sont hospitalisés, qui arrivent aux urgences, sont infectés par un autre virus qui est celui de la bronchiolite. Aujourd'hui, pas de Covid grave dans nos hôpitaux. Les inquiétudes portent sur ces fameux PIMS, vous savez, qui sont ces réactions de l'organisme qui sont décalées dans le temps, qui surviennent 3 à 4 semaines après l'infection Covid et qui peuvent se manifester par beaucoup de fièvre, beaucoup de fatigue et qui ont conduit déjà 300 enfants à être hospitalisés depuis le début de la pandémie. Et donc, c'est ça qu'on va guetter dans la mesure où on va arriver là, dans la période où il pourrait y avoir des enfants qui développent des PIMS.
Est-ce qu'il y a encore de la place dans votre service d'urgence pour des enfants qui développeraient ce genre de syndrome ?
Alors les services d'urgence sont, on a l'impression, toujours extensibles à l'infini et on essaye toujours de prioriser, de faire du tri et de recevoir les enfants graves en priorité. Là où c'est plus compliqué, c'est les services de soins continus ou de soins critiques en général, qui, à l'heure où je vous parle, sont saturés parce que ont été submergés d'enfants porteurs de bronchiolite de forme grave. Donc on espère rapidement que cette bronchiolite passe et qu'on puisse de nouveau débloquer des places et des créneaux en soins critiques. Mais aujourd'hui, la situation est tendue.
Christelle Gras-Le-Guen, on a un appel de Brigitte au Standard de France Inter. Bonjour Brigitte.
Bonjour.
Vous aviez une question.
Oui, voilà, j'ai une petite fille de 5 ans et demi qui est asthmatique, qui est soignée d'ailleurs à Nantes. Et je voulais savoir comment vaincre peut-être une certaine réticence ou une inquiétude de la maman pour pratiquer le vaccin.
Concernant le vaccin, vous dites que votre petite fille est asthmatique, donc elle pourrait éventuellement être plus fragile.
Voilà, déjà je voudrais savoir si c'est une fragilité aggravante.
Merci pour votre question Brigitte. Christelle Gras-Le-Guen.
Alors la liste des enfants qui sont susceptibles de faire des formes plus graves de Covid a été validée par la HAS et donc l'asthme en fait partie uniquement pour les formes les plus graves, les plus sévères qui ont justifié des traitements continus ou des hospitalisations répétées. Donc il faut tenir compte de la gravité de la maladie et puis ensuite effectivement on peut aussi à partir du moment où ce vaccin sera ouvert à tous les enfants de 5-11 ans lui proposer cette vaccination à titre général, dans la mesure où, encore une fois, vous pouvez en discuter avec vos médecins de confiance, le pédiatre traitant, le médecin traitant, et ce sont eux probablement qui seront les mieux à même de peser avec vous ce qu'il faudra faire pour votre petite fille.
Christelle Gras-Le-Guen, souvent l'argument des opposants ou des gens qui sont réticents au vaccin pour leurs enfants, c'est de dire on manque de recul, notamment sur la vaccination pour les enfants. On n'en a vraiment pas du recul, parce que pourquoi est-ce que les enfants réagiraient différemment des adultes? Il y a déjà des milliards d'adultes vaccinés.
Certainement, et en matière de vaccins et de virus, on voit bien que celui-là en particulier a un effet âge-dépendant qui est très spectaculaire. On doit être à une dizaine d'enfants décédés chez les mineurs contre 120 000 chez les adultes.
Oui, trois enfants de 5 à 11 ans depuis le début de l'épidémie notamment.
C'est ça. Donc c'est trois enfants de trop, on est bien d'accord, mais c'est quand même sans commune mesure, et on voit bien que l'âge a un rôle tout à fait déterminant dans les formes que l'on présente de ce virus, la capacité à s'infecter, la capacité à contaminer, et il est évident que la réaction au vaccin n'est pas la même non plus. Vous voyez bien que les myocardites dont on a parlé tout à l'heure chez les garçons jeunes n'avaient pas du tout été décrits dans la population des adultes, hein, et que
comme
c'est vraiment
secondaire.
La réaction du système immunitaire qui est différente en fonction de l'âge. Et donc c'est pour ça qu'on est amené à prendre en compte, là encore, les spécificités des très jeunes, et que ces données de pharmacovigilance pour s'assurer de l'absence d'effets secondaires sont indispensables.
Christelle Gras-Le-Guen, vous parliez tout à l'heure d'un deuxième effet que pouvait avoir la Covid, qui dans un premier temps n'était pas grave pour les enfants, du ce qu'on appelle le PIMS. Est-ce qu'ils sont susceptibles de faire peut-être des Covid longs, plus de Covid longs?
Alors la question du Covid long chez l'enfant reste là encore avec un point d'interrogation. On parlait d'incertitude, ça en fait partie, puisque à ce jour, les médecins généralistes, les pédiatres ont été très très peu sollicités par les familles pour des symptômes en rapport avec le Covid long. Et autant chez l'adulte, ce sont des choses qui ont été l'objet de consultations et de beaucoup de diagnostics, alors que chez l'enfant, ça reste un motif de consultation extrêmement rare. On a fait le tour des différents hôpitaux dernièrement, et chaque service de pédiatrie dit avoir été sollicité pour quelques cas, mais ça reste quelque chose qui n'a pas l'air très fréquent, et pour lequel on dispose aujourd'hui de très peu d'informations, et donc qui n'est pas une source d'inquiétude majeure à ce jour.
Donc, deuxième argument des personnes réticentes à la vaccination, le bénéfice-risque qui n'est pas avéré pour les enfants, vous en pensez quoi, vous?
Alors, Évidemment, dans le bénéfice, on met ces fameux cas de PIMS dont on vient de parler. C'est 300, un peu plus de 300 enfants depuis le début de la pandémie qui ont été hospitalisés et qui ont fait ces formes sévères de Covid. Donc, si on peut éviter 300 formes sévères de Covid, eh bien, c'est le bénéfice de la vaccination. L'autre bénéfice serait un bénéfice collectif pour lequel il y a des modélisations qui évoquent possiblement un bénéfice collectif. On discute aussi peut-être sur la fermeture des classes, avec l'idée qu'il y a eu moins de classes fermées au collège et au lycée depuis la vaccination. Mais là encore, on est avec des incertitudes et ce sont des choses qu'il va falloir affiner, préciser au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie et de la vaccination.
Donc pour ça, on attend quoi ? On attend l'avis de la Haute Autorité de Santé, en fait ?
Alors, l'avis de la Haute Autorité de Santé va probablement, comme celui du comité d'éthique, se faire dans une grande incertitude. Et donc, on attend ce qui me semble important, de voir comment évolue un certain nombre de paramètres, dont la circulation du virus, dont la diffusion d'éventuels nouveaux variants qui seraient plus ou moins sensibles au vaccin, et puis aussi la réaction des Français qui est difficile à établir à ce stade, même si le sondage dont vous parlez laisse à penser que l'adhérence ne sera pas de 100%.
Jean-Yves est au Standard de France Inter. Bonjour Jean-Yves.
Oui, bonjour.
Vous avez une question pour Madame Gralouet.
Oui, toute simple. Est-ce que les enfants vaccinés resteront contaminants, sachant que la dose ne fait pas le poison ?
Christelle Gralouet, on a des éléments là-dessus ?
Alors, ce qui est probable, c'est que la contamination reste possible, même si elle sera moins importante que chez les sujets non vaccinés. C'est ce qu'on a observé, en tout cas, chez les adolescents. Le fait de les vacciner ne leur évite pas d'attraper la Covid. Ils excrètent du virus, mais en quantité moins grande, et ils sont moins longtemps contagieux.
On a une question de Blanche aussi sur l'application France Inter. Vu, effectivement, le manque de données que vous évoquez, celle qu'on attend, en tout cas, pourquoi ne pas laisser faire l'immunité naturelle, demande Blanche.
Alors c'est une alternative qui a été par exemple choisie chez nos collègues anglais, puisque vous savez que la vaccination des enfants n'a pas été retenue pour l'instant en Angleterre, que le port de masque à l'école n'était pas non plus de mise, et on a laissé les enfants s'immuniser. La seule inquiétude, c'est avoir circulé le virus beaucoup. Est-ce qu'on s'expose pas à avoir beaucoup de PIMS, puisqu'on sait que c'est environ un PIMS pour 2000 cas de Covid. Donc plus on aura d'enfants à faire le Covid, plus on risque d'avoir des PIMS, en sachant que les données préliminaires dont on dispose pour la vaccination laissent à penser que la vaccination protégerait du PIMS.
On rappelle la situation de l'épidémie encore, en Angleterre, ils parlent d'un raz-de-marée d'Omicron.
Oui. Et donc ça, c'est encore un autre point d'interrogation dans la liste des incertitudes. C'est quid de cet Omicron et de l'effet du vaccin sur ce variant. Et donc là encore, on manque de recul et d'informations pour pouvoir être précis dans ce que l'on communique.
En un tout petit mot, Christelle Gralouet, il va falloir me répondre par oui ou par non. Est-ce qu'on a les moyens logistiques de vacciner les enfants ?
Alors, on les a, mais pas dans les hôpitaux en tout cas. Comme vous le disiez tout à l'heure, les hôpitaux sont submergés, sont en tension, sont en plan blanc avec un autre virus qui est le VRS pour la pédiatrie. On a du mal à recruter du personnel. Il est évident que les enfants ne doivent pas venir à l'hôpital pour se faire vacciner, mais qu'il faut qu'on équipe des centres de vaccination avec des professionnels de santé ou qu'on associe les médecins généralistes, les pédiatres à cette vaccination de manière à ce qu'elle se fasse dans de bonnes conditions. Et que les enfants soient en confiance et leurs parents aussi.
Merci Christelle Gralouet, chef des urgences pédiatriques au CHU de Nantes. Merci de nous avoir répondu sur France Inter. Les enfants, on les vaccine ou pas, on leur raconte des histoires en tout cas. Raconter des histoires aux enfants, c'est le thème du Téléphone Sonne ce soir 19h20 avec Claire Servageant. Vos témoignages et vos questions, toujours 01 45 24 7000.